L'île aux 30 cercueils de Maurice Leblanc. Il y eut un silence. Mes amis, ce n'est pas par simple jeu que je vous ai réunis en tribunal. Et ce n'est pas parce que les débats vous semblent terminés que votre rôle de juge est fini. Il continue, et le tribunal n'a pas levé séance. C'est pourquoi je vous demande de répondre franchement. Estimez-vous que Vorsky mérite la mort ?
Oui, oui, sans aucun doute.
Mes amis, votre réponse n'est pas assez solennelle. Je vous supplie de l'exprimer selon les formes et en toute conscience, comme si vous étiez en face du coupable. Je le répète, quelle peine méritait Vorsky ? Ils levèrent la main et l'un après l'autre, ils prononcèrent
« La mort. La mort. »
Deux paires de jumelles, Hadji. Quand les instruments furent apportés, Don Luis les offrit à Stéphane et à Patrice. « Nous ne sommes qu'à 1 mille de Sarek. Regardez vers la pointe. La barque doit être en route. »«
Oui ?»
fit Patrice au bout d'un instant. « Vous voyez, Stéphane ?»«
Oui, seulement... »«
Seulement ?»«
Il n'y a qu'un passager. »«
Qu'un passager, en effet. »
Ils posèrent leurs jumelles et l'un d'eux commença.
« Un seul s'est enfui. »«
Vorsky, évidemment. Il aura tué son complice, Otto. »
À moins que son complice Otto ne l'ait tué.
Pourquoi dites-vous cela ?
Dame, rappelez-vous la prédiction faite à Vorsky quand il était jeune. Ta femme périra sur la croix et toi, tu seras tué par un ami.
Je ne pense pas qu'une prédiction suffise.
Aussi ai-je d'autres preuves ?
Lesquelles ?
Alors, mes chers amis, cela fait partie des derniers problèmes que nous devons élucider ensemble. Et par exemple, quelle est votre idée sur la façon dont j'ai substitué Elfried Vorsky à Madame d'Hergemont ? Stéphane hocha la tête.
J'avoue n'avoir pas compris.
C'est pourtant simple. Lorsque dans un salon, un monsieur quelconque vous fait des tours d'escamotage ou devine vos pensées, vous vous dites, n'est-ce pas, qu'il doit y avoir là-dessous quelque artifice, l'aide d'un compère. Ne cherchez pas plus loin pour moi.
Hein ? Vous aviez un compère ?
Ma foi, oui.
Mais qui ?
Otto.
Otto ? Mais vous ne nous avez pas quittés. Vous ne lui avez pas parlé.
Comment aurais-je pu réussir sans sa complicité ? En réalité, j'ai eu dans cette affaire deux compères, Elfried et Otto, qui tous deux ont trahi Vorsky, soit par vengeance, soit par peur ou par cupidité. Tandis que vous entraîniez Vorsky loin du dolmen aux fées, Stéphane, moi, j'abordais Otto. L'accord fut rapidement conclu, moyennant quelques billets et contre la promesse qu'il sortirait sain et sauf de l'aventure. En outre, je lui appris que Vorsky avait subtilisé les 50 000 francs des sœurs Archinia.
Comment le saviez-vous ?
Par mon compère numéro 1, par Elfried, que j'avais continué d'interroger à voix basse pendant que vous guettiez l'approche de Vorsky, et qui me révéla également, en quelques mots rapides, ce qu'elle connaissait du passé de Vorsky.
En fin de compte, vous n'avez vu Otto qu'une fois.
2 heures plus tard, après la mort d'Elfried et après le feu d'artifice du chêne creux, seconde entrevue sous le dolmen aux fées. Vorsky dort, abruti par l'alcool, et Otto monte la garde. Vous comprenez si j'ai saisi l'occasion pour me documenter sur l'affaire et pour compléter mes renseignements sur Vorsky avec ceux que, dans l'ombre et depuis 2 ans, Otto n'a cessé de recueillir sur un patron qu'il déteste. Puis il décharge les revolvers de Vorsky et de Conrad, ou plutôt, il enlève les balles tout en laissant les douilles. Puis il me passe la montre et le carnet de Vorsky, ainsi qu'un médaillon vide et une photographie de la mère de Vorsky qu'Otto lui avait subtilisé quelques mois auparavant. Toute chose qui me servait le lendemain à jouer au sorcier avec le dit Vorsky dans la crypte où il me retrouve. Voilà comment Otto et moi avons collaboré.
Soit, mais vous ne lui avez pourtant pas demandé de tuer Vorsky.
Certes, non.
En ce cas, qui nous prouve ?
Croyez-vous que Vorsky n'ait pas deviné à la fin cette collaboration qui est une des causes évidentes de sa défaite ? Et croyez-vous que le sieur Otto n'ait pas prévu cette éventualité ? Soyez-en sûr, aucun doute à ce propos. Vorsky, détaché de son arbre, eut supprimé son complice, autant pour se venger que pour retrouver les 50 000 francs des sœurs Archinia. Otto a pris les devants. Vorsky était là, impuissant, inerte, proie facile. Il l'a frappé. J'irai plus loin. Otto, qui est un lâche, n'a même pas frappé. Il aura tout simplement laissé Vorsky sur son arbre. Et de la sorte, le châtiment est complet. Êtes-vous satisfait maintenant, mes amis ? Et votre besoin de justice est-il assouvi ? Patrice et Stéphane se turent, impressionnés par la vision terrible que Don Luis évoquait à leurs yeux. Allons, j'ai eu raison de ne pas vous obliger à prononcer la sentence là-bas, quand nous étions au pied du chêne et en face d'un homme vivant. Je vois que mes deux juges auraient quelque peu flanché à cette minute-là. Et mon troisième juge aussi, n'est-ce pas, tout va bien ? Toi qui es un sensible et un larmoyant. Et je suis comme vous, mes amis. Nous ne sommes pas de ceux qui condamnent et qui frappent. Mais tout de même, réfléchissez à ce qu'était Vorsky, à ses 30 crimes et à ses raffinements de cruauté. Et félicitez-moi d'avoir choisi comme juge, en dernier ressort, l'aveugle destin et comme bourreau responsable, l'exécrable Otto. Que la volonté des dieux soit faite. Les côtes de Sarek s'amincissaient à l'horizon. Elles disparurent dans la brume où se fondaient la mer et le ciel. Les trois hommes gardaient le silence. Tous trois, ils pensaient à l'île morte, dévastée par la folie d'un homme. À l'île morte où bientôt quelques visiteurs trouveraient les traces inexplicables du drame, les issues des souterrains, les cellules avec leurs chambres de mort, la salle de la pierre-dieu, les cryptes funéraires, le cadavre de Conrad, le cadavre d'Elfried, les squelettes des sœurs Archinia, et tout au bout, près du dolmen aux fées où s'inscrivait la prophétie des 30 cercueils et des 4 croix dressées, le grand corps de Vorsky, solitaire, lamentable, déchiqueté par les corbeaux et par les oiseaux de nuit. Épilogue. Une villa près d'Arcachon, au joli village des Moulots, dont les pins descendent jusqu'à la berge du golfe. Véronique est assise dans le jardin. 8 jours de repos et de joie ont redonné de la fraîcheur à son beau visage et endormi les mauvais souvenirs. Elle regarde en souriant son fils qui, debout un peu plus loin, écoute et interroge Don Luis Perena. Elle regarde aussi Stéphane et leurs yeux se rencontrent doucement. On sent qu'il y a entre eux, par l'affection qu'ils portent l'un et l'autre à l'enfant, un lien qui les unit étroitement et qui se renforce de leurs pensées secrètes et de leurs sentiments confus. Pas une fois Stéphane n'a rappelé les aveux qu'il a faits dans la cellule des Landes Noires. Mais Véronique ne les a pas oubliés. Et la reconnaissance profonde qu'elle garde à celui qui éleva son fils est mêlée d'une émotion spéciale et d'un trouble dont elle goûte le charme à son insu. Ce jour-là, Don Luis, qui le soir même où le bouchon de cristal les a tous amenés à la villa des Moulots, prenait le train pour Paris, est arrivé à l'improviste au moment du déjeuner, en compagnie de Patrice Belval, et depuis 1 heure qu'ils sont au jardin, installés dans des rocking chairs, l'enfant, la figure toute rose d'animation, ne cesse de poser des questions à son sauveur.
« Et alors ? Qu'avez-vous fait ? Mais comment avez-vous pu savoir ? Et pour cela, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ?»«
Mon chéri, observe Véronique, ne crains-tu pas d'importuner Don Luis ?
Non, madame, répond Don Luis qui se lève, s'approche de Véronique et lui parle de façon que l'enfant n'entende point. Non, François ne m'importune pas et je tiens même à répondre à ses questions. Mais j'avoue qu'il m'embarrasse un peu et que je crains quelque maladresse de ma part. Voyons, que sait-il au juste de tout ce drame ?
Ce que j'en sais moi-même, sauf bien entendu le nom de Vorsky.
Mais le rôle de Vorsky, il le connaît ?
Oui, mais avec certaines atténuations. Vorsky est un prisonnier évadé qui a recueilli les légendes de Sarek et qui, pour s'emparer de la pierre Dieu, a mis à exécution la prophétie qui l'a concernée, prophétie dont j'ai caché quelques vers à François.
Et le rôle d'Elfried ? Sa haine contre vous, les menaces qu'elle vous a faites.
Paroles de folie dont moi-même, je dis à François, je n'ai pas compris le sens.
Don Luis sourit. L'explication est un peu sommaire, et j'ai idée que François comprend fort bien que certaines parties du drame doivent rester et resteront dans l'ombre pour lui. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est qu'il ignore que Vorsky était son père.
Il l'ignore et il ne le saura jamais.
Et alors, et c'est là où je voulais en venir, quel nom portera-t-il lui-même ?
Que voulez-vous dire ?
Oui, de qui se croira-t-il le fils ? Car vous le savez comme moi, la réalité légale se présente ainsi. François Vorsky est mort dans un naufrage, ainsi que son grand-père il y a 14 ans. Et Vorsky est mort il y a un an, assassiné par un camarade. Légalement, il n'existe plus ni l'un ni l'autre. Et alors ?
Véronique hocha la tête en souriant.
Et alors, je ne sais pas. La situation me semble en effet inextricable. Mais tout s'arrangera.
Pourquoi ?
Parce que vous êtes là.
Il sourit à son tour.
Je n'ai même plus le bénéfice des actes que j'accomplis et des mesures que je prends.
Tout s'arrange a priori. À quoi bon se donner de la peine ?
N'ai-je pas raison ?
Oui. Celle qui a tant souffert ne doit plus subir le moindre ennui. Et rien ne l'atteindra désormais, je vous le jure. Donc voici ce que je vous propose. Vous avez épousé autrefois, contre le gré de votre père, un de vos cousins très éloigné, qui est mort après avoir laissé un fils, François. Ce fils, votre père, pour se venger, l'a enlevé et l'a conduit à Sarek. Votre père étant mort, le nom d'Hergemont est éteint et rien ne peut rappeler les événements de votre mariage.
Mais mon nom reste. Légalement, sur les registres de l'état civil, je m'appelle Véronique d'Hergemont.
Votre nom de jeune fille disparaît sous votre nom de femme.
Donc, sous mon nom de Vorsky.
Non. Puisque vous n'avez pas épousé le sieur Vorsky, mais un de vos cousins qui s'appelait...
Qui s'appelait ?
Jean Maroux. Voici un extrait légalisé de votre acte de mariage avec Jean Maroux. Mariage qui est mentionné sur votre état civil, ainsi que l'atteste cette autre pièce.
Véronique regarda Don Luis avec stupeur.
Mais pourquoi ? Pourquoi ce nom ?
Pourquoi ? Pour que votre fils ne s'appelle plus d'Hergemont, ce qui aurait évoqué les événements d'autrefois, ni Vorsky, ce qui aurait évoqué le nom d'un traître. Voici son extrait de naissance. François Maroux. Elle répéta, rouge et confuse.
Mais pourquoi avez-vous choisi précisément ce nom ?
Cela m'a semblé commode pour François. C'est le nom de Stéphane auprès de qui François continuera longtemps de vivre. On pourra dire que Stéphane était parent de votre mari, et votre intimité à tous sera ainsi expliquée. Tel est mon plan. Il n'offre, soyez-en sûr, aucun péril possible. Quand on se trouve en face d'une situation insoluble et douloureuse comme la vôtre, il faut bien employer des moyens particuliers et recourir à des mesures radicales. Et je l'avoue, fort peu légal. C'est ce que j'ai fait sans scrupule, puisque j'ai la bonne chance de disposer de ressources qui ne sont pas à la portée de tous.
Vous m'approuvez ?
Véronique inclina la tête.
« Oui, oui. »
Il se leva à moitié. « D'ailleurs, s'il se présente quelques inconvénients, l'avenir se chargera sans doute de les aplanir. Il suffirait, par exemple, ce n'est pas indiscret, n'est-ce pas, de faire allusion au sentiment que Stéphane éprouve pour la mère de François. Il suffirait qu'un jour ou l'autre, par raison, par gratitude, la mère de François fut amenée à bien vouloir accueillir l'hommage de ses sentiments. Alors, comme tout se trouve simplifié, si François porte déjà le nom de Marou, combien le passé sera mieux aboli, aussi bien pour le monde que pour François. Ils ne pourront plus pénétrer dans le secret d'événements effacés que rien ne rappellera. Il m'a semblé que ces motifs avaient quelque poids. Je suis heureux de voir que vous partagez mon avis. » Don Luis salua Véronique et, sans insister davantage, sans paraître remarquer sa confusion, il se retourna vers François et s'écria « Maintenant, mon petit, je suis tout à toi. Et puisque tu ne veux rien laisser dans l'ombre, revenons à la pierre Dieu et au bandit qui la convoitait. « Oh oui, au bandit !» répéta Don Luis, jugeant qu'il n'y avait aucune raison pour ne point parler de Vorski en toute franchise. « Et le bandit le plus effroyable que j'ai rencontré, parce qu'il croyait à sa mission. Bref, un malade, un détraqué. Eh bien, tout d'abord, ce que je ne comprends pas, c'est que vous ayez attendu toute la nuit pour le capturer, alors que ses complices et lui dormaient sous le dolmen au fait.
« Très bien, mon petit. Tu as mis le doigt sur un point faible. Si j'avais agi ainsi, le drame finissait 12 ou 15 heures plus tôt. Seulement voilà. Aurais-tu été délivré? Le bandit aurait-il parlé et révélé ta retraite? Je ne le pense pas. Pour lui délier la langue, il fallait le cuisiner. Il fallait l'étourdir, le rendre fou d'inquiétude et d'angoisse. Et faire pénétrer en lui, par 1000 preuves, le sentiment de sa défaite irrémédiable. Sans quoi il se taisait, et nous ne t'aurions peut-être pas retrouvé. Et puis, à ce moment-là, mon plan n'était pas très net. Je ne savais pas trop comment aboutir. Et ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai pensé, non pas à lui infliger une torture violente, j'en suis incapable, mais à l'attacher à cet arbre, où il avait voulu faire mourir ta mère. De sorte que, embarrassé, hésitant, j'ai tout simplement cédé, en fin de compte, au besoin quelque peu puéril, je l'avoue, à ma confusion, d'aller jusqu'au bout de la prophétie, de voir comment se comporterait le missionnaire en face du vieux druide. Bref, de m'amuser. Que veux-tu, l'aventure a été si noire qu'un peu de gaieté m'a semblé nécessaire. Et j'ai bien ri. Voilà ma faute, je m'en accuse et je m'en excuse. L'enfant riait aussi. Don Luis, qui le tenait debout entre ses jambes, l'embrassa et répéta « Tu m'excuses ?»«
Oui, mais à la condition que vous répondiez encore. Il me reste 2 questions. La première, peu importante.
Parle.
Il s'agit de la bague. D'où vient-elle, cette bague que vous avez mise d'abord au doigt de maman, ensuite au doigt d'Elfried ?»
« Je l'ai fabriqué la nuit même, en quelques minutes, avec un vieil anneau et des pierres de couleur. »«
Mais le bandit l'a reconnu comme ayant appartenu à sa mère. »«
Il a cru la reconnaître. »« Et il l'a cru parce que la bague était semblable. »«
Mais comment le saviez-vous? Et comment connaissiez-vous cette histoire ?»«
Par lui-même. »«
Est-ce possible ?»«
Mon Dieu, oui. »« Des paroles qui lui ont échappé pendant qu'il dormait sous le dolmen au fait. » Un cauchemar d'ivrogne. Il a raconté par bribes toute l'histoire de sa mère, qu'Elfried connaissait d'ailleurs en partie. Tu vois comme c'est simple. Et combien le hasard m'a favorisé.
Mais l'énigme de la pierre Dieu n'est pas simple. Et vous l'avez déchiffrée. Voilà des siècles que l'on cherche et vous avez mis quelques heures.
Non, quelques minutes, François. Il m'a suffi de lire la lettre que ton grand-père écrivait à ce propos au capitaine Belval. Par courrier, je donnais à ton grand-père toutes les explications sur l'emplacement et sur la nature merveilleuse de la pierre Dieu.
« Eh bien, Don Luis, ce sont ces explications que je vous demande. » Voilà ma dernière question, je vous le promets. D'où vient que l'on a cru au pouvoir de la pierre-dieu? Et en quoi consistait au juste ce soi-disant pouvoir?
Stéphane et Patrice rapprochèrent leur fauteuil. Véronique se redressa et prêta l'oreille. Ils comprenaient tous que Don Luis avait attendu qu'ils fussent réunis pour déchirer devant eux le voile du mystère.